Bonsoir, chers auditeurs d'Aligre FM. Nous saluons avec nous à la régie René Clancy et Renaud Poussin. Nous sommes en direct dans l'émission Chacun son tempo. Pascal revient à l'antenne dès le mois d'octobre, on le salue. Dans cette émission, nous recevons des artistes singuliers, libres et authentiques. Et ce soir, nous sommes avec Gilda, une artiste surprenante, douée d'une sensibilité rare. Elle grandit entre la France et le Brésil, prend des cours de violon très jeune, puis de danse, de théâtre. Elle découvre ensuite le jazz, le hip-hop. Elle joue au cinéma, elle chante, elle s'explore. Puis un jour, son chemin prend un tournant inattendu. Tout s'aligne. Elle découvre son clown, Gilda. Cette reconnexion mystique lui ouvre un monde des possibles. Et c'est avec cet alter ego qu'elle se présente sur scène, accompagnée parfois d'une simple guitare, d'une cora, ses bigoudis encore emmêlés dans les cheveux, et elle nous entraîne dans un voyage hors du temps. Gilda, c'est une artiste complète, captivante, inclassable, et le vrai miracle, c'est qu'on se sent libre rien qu'à la regarder.
D'où viennent ces flashs qui me projettent dans le pire alors que tout va bien? D'où viennent ces pensées qui me font trébucher alors qu'il n'y a rien? Celle qui me dit d'avance que c'est raté, qui me dit que ça vaut même pas le coup d'essayer. Ça les dégoûtera. Que je ne mérite pas leur amour, tellement je suis orgueilleuse. Que c'est ça qui me rend monstrueuse.
D'où viennent ces pensées diluviennes? Toutes ces pensées qui me viennent. D'où viennent ces pensées? Je pourrais pas écouter ma boussole, rien qu'à moi qui me parle tout bas. Celle qui dit que je suis drôle dans mon désespoir, que c'est ça que les gens veulent et ont besoin de voir, que tous ces frissons dans mon dos c'est pas le froid, mais mes ancêtres qui se collent éveillés sur moi.
Bonsoir Gilda.
Bonsoir.
Je suis super contente de vous recevoir ici ce soir. Vous avez grandi entre la France et le Brésil. Si on faisait une photo de vous petite là maintenant, ça ressemblait à quoi le décor, vous, la lumière, les gens autour, c'était quoi l'atmosphère un peu?
Plein d'enfants. Avec des visages qu'on aurait du mal à définir sur leurs origines, un mélange d'Afrique de l'Ouest, un mélange d'indigènes, un mélange d'Europe. On a à peu près tous les mêmes âges. Il y a nos parents, il y a de la musique, il y a à manger et on joue.
Une enfance douce et joyeuse.
Ouais, électrique.
Et vous rêviez de quoi à ce moment-là ?
Je rêvais d'être soliste, violoniste, classique.
Et vous avez commencé d'ailleurs par le violon.
Ouais, c'est venu assez tôt.
On vient d'écouter un de vos premiers titres, « Pensées diluviennes ». Et ces pensées, finalement, elles vous traversent, mais elles n'ont pas l'air de vous arrêter. Et c'est quoi votre moteur ? Qu'est-ce qui fait que vous allez toujours au-delà ?
Y a un truc en rapport avec l'énergie de la survie, peut-être. Le mouvement, le fait de ne pas s'arrêter. Le fait de rendre hommage à ceux qui ont raté avant moi aussi. Je pense souvent à mes ancêtres, à des gens autour, à des choses de la vie qui me questionnent, que je trouve injustes ou que je comprends pas. Je me dis que tout est dans tout et qu'on partage tous le même corps, tous les êtres humains. Donc l'entaille me donne de la force pour avancer et rendre un peu hommage, quoi. Hommage et justice, on peut dire comme ça.
J'allais vous demander justement, parce que dans cette chanson, vous dites que tous ces frissons dans mon dos, c'est pas le froid, mais c'est mes ancêtres qui se collent et veillent sur moi. Je trouve cette phrase magnifique. Et justement, je voulais vous demander, si c'était, si ça avait pu être un poids, cet héritage. Mais vous avez l'air de me dire que justement, vous en faites une force.
J'essaye de transformer en fait. C'est quand je prends conscience des choses qu'on porte, quand je dis « on », c'est par exemple ma famille ou des blessures, etc. Il y a un moment où ça me dévaste de rage ou de tristesse, et tout de suite je me dis, je vais prendre ça dans mon ventre et je vais en faire un truc. Il faut que je le transforme. On doit le transformer, on doit le rendre. Et le poids de l'héritage, c'est littéralement une phrase que longtemps j'ai écrite sur des carnets, comme un thème, comme une chose, quoi. Je me disais, le poids de l'héritage, je veux écrire sur ça. Donc des fois il me pèse, des fois il m'écrase, et puis après je le
transforme.
Ouais, j'essaye.
Je rappelle le principe de cette émission. On vous découvre à travers vos titres et les titres importants de votre parcours. On va commencer avec un titre de votre enfance. Vous avez choisi Michael Jackson, Dangerous. On en parle juste après.
This girl was persuasive. This girl I could not trust. The girl was bad. The girl was écoutez Aligre FM 93.1.
Ça fait du bien d'écouter Michael.
Ouais.
Il y a un autre titre de cet album qui vous plaît bien.
Ouais.
J'ai cru comprendre. Ouais.
They Don't Really Care About Us. Ça, c'est vraiment un titre que j'adore de cet album. Oui, Dangerous, en fait. Moi, j'avais compris que c'était l'album qu'il fallait que je choisisse. Donc, je vais introduire pourquoi j'ai choisi ça. C'est quand j'étais petite, j'avais une babysitter avec qui, tous les soirs, il fallait que je regarde cette cassette. C'était le rituel, quoi. Il y avait une fascination pour ses clips, les personnages.
Mais alors, qu'est-ce qui vous fascinait chez lui ?
C'était des films, c'était ouais. vraiment des histoires qui servaient la musique, qui faisaient pas de beurre sur beurre par rapport à la chanson, mais qui la mettaient en lumière. Enfin, là, et encore, là, je suis en train de l'analyser comme une adulte, parce que quand j'étais petite, j'étais juste obsédée par sa façon de bouger. Je trouvais que c'était d'une grâce et d'une radicalité. Et en même temps, sa voix... elle a quelque chose d'insupportable dans les aigus. Par exemple, ses ballades, c'est pas une chose qui me plaît.
Ouais.
Moi, j'aime quand il y a ce truc fort, quoi. Je sais pas, avec ma sœur, on s'amuse à l'imiter quand on est en studio. Je vais pas le faire là, mais il y a un truc...
Si, on aimerait bien. On
non,
peut pas
voir. Je vais vous épargner.
Il y a le côté personnage chez Michael, pardon. Moi, j'aimerais qu'on parle du clown, forcément, oui. parce que c'est une étape très importante de votre parcours. Mm. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Donc, il y a eu le violon d'abord que vous avez travaillé pendant quelques années. Ça a
ouais.
été,
ouais. C'est ça, il y a eu le violon pendant 10 ans. Ensuite, il y a eu la volonté de jouer autre chose, du R&B, du jazz. Et ça, c'était pas vraiment dans les cordes de mes profs. Et puis, c'était pas vraiment quelque chose qu'ils en avaient pas vraiment envie. Donc, moi, j'ai commencé à avoir un peu moins envie de jouer. Et dans le conservatoire où j'étudiais, à la fin, il y avait des cours de théâtre qui me rendaient assez curieuse. Et au bout d'un an, j'ai osé demander « est-ce que je peux aller voir ?» Et j'ai commencé à ce moment-là à faire du théâtre. J'ai fait une pause musicale. J'ai toujours fait de la danse pendant toutes ces années-là. Et j'ai commencé le théâtre. Et là, ça a été un moment de libération parce que c'était un endroit que personne connaissait dans la famille, le théâtre. Donc personne ne pouvait rien me dire.
Ah, parce qu'il y avait beaucoup de musiciens
Oui, il n'y a que des musiciens okay. dans la famille, presque, ouais. Vraiment, puis en plus, c'était un nouveau langage. D'un coup, découvrir des auteurs, des autrices, des histoires, d'autres gens avec qui tu joues des situations, des scènes avec une intensité folle. Enfin, c'était un nouveau monde, quoi, qui s'ouvrait. Et j'ai un peu navigué là-dedans avec une grande joie qui m'a amenée à être dans des grandes écoles. La classe libre des cours Florent, pareil, c'est un concours que tu passes. On est 10 filles, 10 garçons à rentrer. Après, on a passé un moment, 2 ans avec une promotion exceptionnelle avec qui j'ai appris tellement de choses. Des intervenants, des metteurs en scène exceptionnels aussi. Et après ça, le Conservatoire de Paris. Et en fait, pendant ce moment-là où je préparais le concours du Conservatoire de Paris, j'ai repris le violon. Parce qu'un pote de la promo avait une scène dans laquelle quelqu'un s'est mis à jouer de l'accordéon. Et je me suis dit, ah bah vas-y, moi je vais faire du violon. Sauf que bah, j'avais pas joué depuis longtemps, donc mes doigts, rien suivait, j'avais tout perdu. Donc je me suis enfermée dans les toilettes de l'école et je jouais. Et je pleurais en me disant, purée, je vais retrouver mon niveau. Et ça a commencé à revenir. Ensuite j'ai commencé à diriger des chœurs dans la promo, pareil. Pareil avec cet esprit de bac à sable. Et en fait, c'est comme ça que la musique est revenue petit à petit, sans vraiment que je m'en rende compte. Elle était là et c'était facile. C'était mon langage le plus profond. Et le conservatoire est arrivé et le clown est arrivé. Et là, ça a été une énorme claque. Quand t'es en première année, tu fais du masque et du clown pendant un an. Et à la fin tu choisis, en tout cas quand moi j'y étais c'était comme ça, à la fin tu choisis et les 2 ans qui suivent tu te spécialises un peu quoi. J'ai vachement hésité mais dans le clown, il y avait quelque chose qui me bouleversait dans un sens vraiment mystique et très, 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 très profond, quoi.
Oui, mais ça, j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant dessus parce que j'ai l'impression que souvent, les gens n'ont pas vraiment conscience à quel point c'est un voyage et d'une profondeur absolue et qu'il faut un courage fou pour partir dans cette exploration du clown. C'est pas juste... des blagues, enfin je veux dire c'est pas juste la surface de ce qu'on peut voir,
c'est
vraiment une reconnexion à soi-même, quoi.
Ouais, c'est d'abord alors je vais juste parler de comment on me l'a passé, hein, bien sûr, donc il y a forcément d'autres façons d'y arriver, mais donc Ivo Mentens, qui était notre maître, d'abord on est passé par une phase de dépouillement. Une phase où tout le monde ne savait plus du tout comment faire sur un plateau de théâtre. Tu n'as plus de clés, plus de codes, plus de repères. C'est vraiment une étape de renaissance qui est du coup difficile à traverser dans une époque où ça va très vite. L'habitude, c'est la chose qu'on chérit le plus. Le confort aussi. Et puis, il y a un rapport... d'amitié, de fusion, de séduction, de complicité dans une promo de théâtre qui se tisse parce qu'on en a besoin, parce qu'on a la trouille, on connaît rien, donc on s'accroche les uns aux autres. Mais sur le plateau, en fait, là, t'es vraiment tout seul, tout seul, tout seul. Nous, on est assis, on regarde nos potes, on passe tous par les mêmes exercices. Et ça convoque une écoute chez les personnes qui regardent le clown en devenir sur scène, qui est comme les enfants. C'est-à-dire que c'est ultra exigeant. Si c'est pas drôle, c'est pas drôle. Je vais pas me forcer, quoi. Mais si c'est drôle, alors là, on est à fond, on est avec toi, on te soutient à fond, on est à fond. Et donc, ce dépouillement, il est mené par des exercices qui sont très concrets et qui sont hyper difficiles. Oh, pardon, je crois que j'ai mon téléphone qui sonne. Vous l'entendez pas ?
C'est pas grave, non.
Ok. Excusez-moi, je pensais que j'étais en mode avion. mais qui sont donc des exercices assez difficiles parce que, encore une fois, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment t'y prendre.
Et à ce moment-là, on le cherche, son clown, ou juste on suit
À ce moment-là, tu sais même plus comment tu t'appelles. Franchement, okay. Tu suis, à la fin des cours, on se retrouve, on discute. Des fois, on n'arrive même pas à discuter. Des fois, on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie de... On a envie d'abandonner. Parce que tu te sens nul. Et au fur et à mesure, cet endroit de dépouillement qui, je trouve, manque grave à notre société.
Je suis d'accord.
C'est un endroit de confrontation à son humilité aussi. T'es obligé de revenir à un moment où tu baisses la garde et tu vas dans l'inconnu. Tu ouvres la porte, il nous disait vachement ça. À un moment donné, tu dois ouvrir la porte. Par exemple, j'avais un exercice qu'on faisait qui me terrifiait. Qui était ok, donc vous êtes tous là aujourd'hui, vous avez votre premier jour de classe à donner à cette classe, vous êtes le professeur de, tu choisis ce que tu veux, et c'est le premier jour, et tu vas donner ta première classe. Et voilà, et c'est tout. Et donc, c'est le saut dans le vide total, et il y a un moment où tu ouvres la porte et tu délires, tu deviens le cours que tu donnes. Enfin, là, je fais un énorme raccourci, c'est un peu impossible à expliquer, mais. Ce passage de la porte, c'est cet endroit mystique où on s'est vu les uns les autres se transformer, être traversés de quelque chose et partir sur une autre planète. Et cette planète-là du clown, elle est bouleversante parce que c'est quelqu'un d'ordinaire qui va porter quelque chose d'ordinaire et qui, sans faire exprès, parce que ça le bouleverse, va le transformer, et ça va nous faire rire. Mais ça va nous faire rire parce qu'on se reconnaît dans cet ordinaire. Et ça, c'est tout le travail que je chéris jusqu'aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Camille. Gilda, c'est, comme vous l'avez dit, c'est mon alter ego, ma compagne, ma coloc, mon clown. Mais c'est quelqu'un de très ordinaire, au final. C'est juste que je pousse ces curseurs pour la mettre dans des situations où elle va faire de la magie, mais sans faire exprès, quoi. En fait, c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui pourrait être dans la rue, qui peut t'arrêter à un moment et dire « ça aurait été pas mal que tu fermes quand même la porte de chez toi, parce que la dernière fois, t'as... voilà. » Enfin, et tu dis « mais pourquoi elle me dit ça ? T'arrives chez toi ?» Je fais « putain, c'était ouvert. » C'est ça, Gilda, en gros.
On continue avec votre deuxième titre, « Tout pour plaire ».
Que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me protege, me ilumine. Amém, amém, amém.
Cerveau droit, cerveau gauche, émotion, attention, masque neutre, livre ouvert, atmosphère.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Gilda. Gilda, on vient d'entendre votre deuxième titre. Comment est-ce que vous écrivez ?
J'écris... Ça dépend des morceaux. Par exemple, Tout pour plaire. Alors là, Tout pour plaire, il a vraiment énormément évolué. Il a eu 8 versions différentes.
Ah oui ?
Ouais. Ouais, ouais, il y a une version by les funk, il y a une version électro, il y a une version voilà, expérimentale, bizarre. Là, ça venait avec des gimmicks. Celle-là, elle est venue avec plein de petits bouts de phrases, plein de petits j'ai divisé, divisé, des trucs comme ça, cerveau droit, où on a beaucoup cherché par des petits bouts. Pensée diluvienne, elle est venue d'un coup en impro, en studio, où j'avais un souci avec une amie proche et je sentais qu'il y avait une situation un peu injuste et en fait j'ai commencé à improviser là-dessus parce que je le sentais mais que j'arrivais pas à l'expliquer et bref. Voilà, donc ça dépend des morceaux. Des fois, puis j'aime bien écrire en mouvement aussi. Genre, j'adore les trains, les aéroports, les endroits de passage. Me calme, bizarrement. Les bus. Au Brésil, on prend beaucoup de bus quand on change de ville pendant plusieurs heures. J'aime bien.
Ça vous donne l'occasion d'écrire. Et vous parlez beaucoup de santé mentale aussi. C'est un sujet qui vous touche particulièrement. Mais j'ai l'impression que c'est à la fois personnel et en même temps une fascination au-delà de vous, quoi. Des gens qui vous entourent.
Ouais.
Est-ce que je me trompe en disant ça ?
Non, non, c'est vrai, c'est juste. J'ai des amis proches qui sont médecins, qui sont psys. J'ai une grande admiration pour le travail de Depardon, Raymond Depardon, documentariste. J'ai été amenée à travailler sur le sujet de la folie, pendant assez longtemps en tant qu'interprète et j'ai découvert il y a quelques années que mon arrière-grand-mère était infirmière en hôpital psychiatrique et pratiquait aussi de manière informelle le soin sur certains patients qui devaient sortir de l'hôpital mais qui se sentaient pas prêts et qui pratiquaient les soins sur eux avec d'autres pratiques plus liées au Candomblé, qui est l'héritage voodoo au Brésil, en gros, quoi. Et puis, moi, j'ai souvent passé des moments, des discussions avec des gens dans la rue, des toxicos. Ça m'est arrivé plein de fois de m'asseoir, de discuter, de les écouter, de leur poser des questions. Et puis le travail du clown, il frotte vachement avec la dimension de la folie, en tout cas de la psyché. Il baigne dedans et après, c'est une transposition de la psyché et du monde quotidien. Donc, c'est un point de vue. Le clown a un point de vue sur le monde et c'est son point de vue qu'il nous apporte sur scène. Et donc, dépendant de comment il regarde le monde, ça, c'est plus ou moins tragique, plus ou moins drôle, etc. Et ouais, la santé mentale, bah ouais.
Vaste sujet.
Vaste sujet, ouais. Ouais.
On continue avec votre album de chevet, Ella Fitzgerald.
Aligre FM 93.1.
Clap hands, here come Charlie. Clap hands, good time Charlie. Clap hands, here come Charlie now. This way, join the party, I say, meet my coffee. Hey, hey, Charlie, take a bow. Ginger ale and white rock for his table. Grab a chair, move over there, and let him sit right next to Mabel. Clap hands, here come Charlie. Clap hands, good time Charlie. Clap hands, here come Charlie now. Clap hands, here come Charlie. Clap hands, good time Charlie. Clap hands, here comes Charlie now. This way, meet the dollies, I say, Ziegfeld Follies. Hey, Charlie, take a bow. See the smile on all those hungry faces. They can tell that he's a buyer from those wide and open spaces. Clap hands, here comes Charlie. Clap hands, good time, Charlie. Clap hands, here comes Charlie now. Clap hands, here comes Charlie now. From those wide and open spaces. Clap hands, here comes Charlie now. Clap hands, here comes Charlie. 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 Oh boy, yeah. Ginger ale and white rock for his table. Grab a chair, move over there and let him wail. Clap hands, here comes Charlie.
On parlait du jazz tout à l'heure, ça a été une découverte importante dans votre vie. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre musique
C'est ma grande sœur qui écoutait beaucoup, beaucoup Ella Fitzgerald. Et du coup, j'écoutais cet album en boucle et je le chantais avec elle. Je chantais en même temps qu'Ella, tout. Donc, qu'est-ce que ça a changé Je ne saurais pas trop comment dire. C'est une vocaliste hallucinante qui peut aller partout avec à la fois une texture de miel et en même temps, là, dans cette chanson particulièrement, elle a un truc beaucoup plus lâché, beaucoup plus... un tout petit peu éraillé, qui était une chose qui est plus rare chez Ella que par exemple Etta James, où c'est beaucoup plus écorché, etc., que j'adore aussi. Donc, je sais pas. Je pense que j'ai pas encore exploité cette partie-là dans cet album. Peut-être sur la ballade vocale. Dans les chansons, il y a quand même une dynamique entre les notes graves et aigu qu'on va découvrir quand l'album sortira, qui est assez étendu. Peut-être c'est ça que ça peut faire comme pont, mais sur le jazz, je vais y aller un peu plus tard. C'est une musique tellement mûre. Je
faut un peu de bouteille.
Ouais, je sais pas comment dire. Je
la sacraliser un peu
tranquillement. Ouais, il y a beaucoup de choses, par exemple aussi la musique classique, je vais y revenir, les chants sacrés yoruba, j'y vais, mais c'est des musiques qui demandent une maturité d'âme, de vie, d'expérience. Pour l'instant, je travaille dessus en fait, mais je sens que ça va durer, ça va prendre beaucoup d'années. Déjà cet album, ça fait 4 ans et demi qu'on travaille dessus. J'ai envie d'arriver avec un au moins 10 ans, tu vois, de maturation, de mâchage, de réflexion, et puis d'avoir oublié, et pour le sortir.
Comment vous l'avez travaillé, cet album ?
Alors, d'abord, j'écris la musique sous forme de maquette sur mon ordinateur. Vraiment, c'est très très simple. Ensuite, je l'envoie à ma sœur, Indy. Et puis là, elle produit un peu de son côté. Et après, on se retrouve et on produit toutes les deux. Ça dure à peu près 2 ans. Ensuite, on rencontre Q, qui est comme notre frère, qui est coproducteur de l'album. Et Q, il suit les 2 dernières années de processus de création, d'enregistrement, d'arrangement, de remise en question, de réécriture, tout ça. Et à la fin arrive l'enregistrement en live, en studio et en production. Donc là, il y a Antonin Fresson, guitariste, bassiste, qui vient jouer. Sur l'album, il joue la guitare et la basse. Et il y a Jouara Ismaili qui vient jouer la percussion. François Constantin aussi. Et Indy et moi, Indy, donc, elle réalise l'album. Moi, je suis là tout le temps. et à la fin, c'est Mathias Durand qui mixe l'album à partir des pré-mix de Q. Et voilà. Comment on l'a travaillé. Donc c'est... Et puis c'est... Bon, en vous passant les détails de beaucoup d'étapes, beaucoup de versions, une étape très chargée, indigeste, trop d'éléments, une étape où la voix est cachée derrière, une étape de mix trop destructif, une étape d'intro à outro trop longue, une étape de doute
intersidérale. Oui, c'est beaucoup de recherches.
Ouais, et l'étape, une des étapes les plus précieuses que j'allais oublier, c'est on arrive chez David Donatien et Yael Naïm qui nous accueillent chez eux, parce que du coup, on a autoproduit, qui nous accueillent chez eux dans leur studio pour qu'on termine l'album. Et David a été d'une grande élégance que je garderai pour toujours dans mon cœur, parce que quand je lui ai demandé de l'aide pour le finir, parce qu'on n'en pouvait plus, ça faisait là 3 ans et demi qu'on avait le nez dans le truc, on savait même plus ce qu'on voulait en faire de l'album.
Oui, bien sûr.
Il nous a dit « Je pense qu'il n'y a que vous qui pourrez finir cet album. Moi, je peux juste vous aider sur l'espace. » Et donc, ça a été des discussions avec lui sur la spatialisation du son et écouter de la musique. Et il nous a laissé les clés de sa maison, quoi, en gros. Donc aujourd'hui, bah pareil, ils font vraiment partie de ma famille. Et voilà. Et ça, franchement, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui pourront faire ça. Parce qu'il y en a eu quelques-uns aussi qui ont voulu s'en emparer, s'en occuper, le faire, prendre les masters, le faire eux-mêmes. Et j'avais cette intime conviction que c'était pas les bonnes personnes. Je savais pas trop comment... Mais en même temps, je le protégeais comme un bébé, quoi. Je me disais, non, mais c'est notre truc. Je vais pas vous donner ça. Et voilà. Et le jour où j'ai eu... où je me suis ouvert la possibilité mentale de l'ouvrir, de le donner à quelqu'un, bah c'est cette, Dieu merci, cette personne qui a dit, c'est vous qui devez le faire.
C'est magique.
Ouais, ouais. Et il est trop content, il est hyper fier, il trouve que ça défonce. Donc on est hyper content aussi.
On a hâte de l'entendre.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
On écoute le troisième titre. Pas assez. Cette chanson, vous racontez l'histoire de Gilda qui passe un casting et c'est pas assez, c'est jamais assez bien. Dans la vraie vie, c'est tout l'inverse à ce qui se passe en ce moment. Quelle transition, incroyable.
Ouais.
C'était très recherché. Il y a eu le prix des Inouïs du printemps de Bourges. Il s'est passé plein de choses là depuis un an.
Ouais,
est-ce que ça vous a surprise, ce prix?
Ah ouais. Juste Richard Ponce, coproducteur de Pas Assez.
On le salue.
Et ouais, ça m'a surprise. Je le voulais. C'était ce prix que je voulais. Et j'étais hyper honorée parce que j'avais travaillé comme une malade pour ce concert. Je savais que j'allais dans un terrain 50-50. Je savais que mon projet posait question, je savais que c'était pas unanime, je savais qu'il y a des gens qui n'aimaient pas du tout, d'autres qui étaient à fond. Et je me disais, notamment sur la question de l'énergie de Gilda qui est sur scène, qui est particulière, soit ça passe, soit ça casse, mais là, je me disais, il faut que tu donnes un peu la main aux gens, parce que t'es au début. Il faut que tu ouvres la porte. C'est pour moi un projet profondément populaire. C'est pas un projet niche, c'est un projet, oui d'accord, ça sonne pas comme tout ce qu'on entend à la radio, ça sonne un peu différent. Oui c'est vrai que c'est une façon d'écrire, blablabla, mais c'est un projet dans le sens étymologique de populaire pour moi. Simple, avec le cœur, c'est pas une musique complexe. Donc je me disais, il faut que je mette les choses en œuvre pour que ça soit accessible. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant toute la semaine, sur la musique, les arrangements et l'énergie. Et voilà. Et donc quand le prix est arrivé, bah, ouais, j'étais très 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 contente. J'ai eu une réaction en 5 temps, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. J'ai décalé quand on a dit mon nom. J'ai eu une réaction silencieuse et de déconfiture. Et après j'ai sauté de joie. En décalé, quand ils ont dit le nom de Pierre et la Rose, avec qui on a gagné ex aequo. Et voilà.
On écoute la suite, donc votre album Bonheur, c'est Louise Prima, The Wildest.
Ah oui.
Baby, baby, it looks like it's gonna hail. Baby, baby, it looks like it's gonna hail. Come inside, let me teach you how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, will. Box looking for a can of ale. Papa's in the icebox looking for a can of ale. Mama's in the backyard learning how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will, you gotta jump and jive and then you will. A woman is a woman and a man ain't nothing but a male. One good thing about him, he knows how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. She wants to learn how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will. You gotta jump and jive and then you will.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Est-ce que il y a une difficulté parfois à la faire venir Gilda pour sur scène? Comment ça se passe
C'est vraiment quelqu'un à part entière qui existe, je pense, indépendamment de moi. Donc oui, c'est une danse. Il faut que je la laisse venir. Il faut qu'elle sache que je suis prête à l'accueillir. Et puis, il faut un peu que je la laisse faire.
Je voulais savoir si vous étiez perfectionniste. Ouais. Il y a énormément de travail. Ça se sent dans votre façon de... Enfin, et puis tout le parcours. Mais il y a aussi un lâcher-prise qui est nécessaire pour que...
Carrément.
Pour que l'énergie circule, qui est du... Enfin, et ouais, et la faire arriver. Je m'exprime pas bien, mais...
Si, c'est très clair. Je suis assez persuadée que plus il y a du travail, plus il y a du lâcher-prise possible. Ouais. Faut le lâcher, mais si tu travailles pas assez, c'est là où il est, comme il a pas assez décanté, tu sors les trucs un peu n'importe comment. C'est là où tu peux un peu être stressée au mauvais endroit. C'est là où typiquement, Gilda ne vient pas. Et ça m'arrive... C'est arrivé qu'elle ne vienne pas du tout.
Comment on fait ?
C'est chaud, mais bon, en même temps, je le fais. C'est plus une question de deal entre moi et moi, quoi. D'avoir confiance. Mais pour l'instant, c'est inimaginable de faire sans. Parfois, je sens qu'on est deux aussi. Je sens qu'on est vraiment deux en même temps, dans la journée. Des fois, je sens que je ne suis pas du tout là, qu'elle est là toute la journée. Donc, ça donne des discussions un peu... Enfin, des discussions, ça va, mais des ambiances bizarres avec des gens qui ont l'impression que je suis bizarre. Et des fois, paf, elle arrive vraiment au dernier moment. Et en fait, c'est le plus beau, je crois. C'est quand je sais qu'elle va venir, je lui fais confiance. Et quand je sens qu'elle arrive, tac, je la laisse tout de suite faire. C'est la plus belle danse. Mais oui, ça nécessite beaucoup de travail. Ouais, je suis hyper perfectionniste.
C'est quoi son message à Gilda? Enfin, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais est-ce qu'on pourrait le regrouper en...
Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous.
Il y a beaucoup d'humanité, en fait, dans ce projet. Beaucoup d'amour et d'humanité.
Ouais. Ouais, rigoler, faites attention les uns aux autres, la joie, la beauté qui sauvera le monde, c'est dans l'idiot de Dostoïevski ça, et ouais, c'est pas grave, c'est ça son message, c'est pas grave, c'est Ivo aussi qui nous disait tout le temps ça.
C'est ça le rôle de l'artiste pour vous ?
Ouais. Ouais. Ouais, il faut... Et c'est quelqu'un qui est en marge de la société, mais qui fait totalement partie d'elle. Et donc, il va la raconter d'une façon particulière, qui va nous donner à voir des choses, nous remettre en question, nous faire réfléchir, et prendre un peu mieux soin de la société, de la cité.
Dans cette émission, chaque artiste propose un...
Ou péter la cité d'ailleurs, pardon. Pour reprendre.
Dans cette émission, chaque artiste interviewé nous fait découvrir un autre artiste qu'il soutient. Et donc, quand je vous ai demandé un coup de pouce, vous m'avez envoyé une phrase. Du coup, c'est plus une phrase d'encouragement pour tous les artistes.
Ah, j'avais pas compris. Ah, mais j'en ai plein des artistes que je soutiens.
Eh ben, alors d'abord, je vais vous citer parce que cette phrase, elle est importante.
Oh là là,
vous
dites,
on essaiera toujours de nous faire peur. Notre meilleur allié est la joyeuse foi, la folie douce et le savoir-faire de transformer les méandres en spectacle. C'est magnifique.
Waouh, merci.
C'est magnifique. Est-ce qu'il y a du coup des amis à vous, des artistes que vous avez envie de mettre en avant ?
Ouais. Kelly Carpaille, Frida, Sophie Solivo, bon, elle n'a pas besoin de moi pour la mettre en avant, mais je la cite parce que je l'aime, Santar, euh, Je sais plus.
Il y en a beaucoup.
Ouais. Ouais, voilà, déjà ça.
C'est déjà pas mal. Mm. On va aller écouter. Mm-hmm. J'aimerais qu'on parle un peu aussi de l'image. Il y a une série de photos que je trouve absolument dingue qui a été faite par alors je sais plus comment il s'appelle,
les Pierre Nativelli,
ouais exactement, ouais. Qui vous a fait un peu une paparazzade dans la rue, dans le métro, dans un parc où vous êtes avec vos bigoudis. Il y a un truc super mystérieux, je les trouve dingues, ces photos. Quelles sont vos inspirations?
Alors,
parce que même sur scène, il y a toujours des tenues assez, assez dingues, il y a plein de tenues différentes, c'est varié.
Alors, moi j'apprends hein, tout ça, parce qu'à la base, c'est pas tellement mon langage de prédilection, donc c'est beaucoup, beaucoup ma sœur Indy qui a vraiment un goût et un regard assez affiné sur le visuel, sur les choses. Donc, une artiste qu'elle m'a fait découvrir notamment, c'est Cindy Sherman. Moi, je commence à découvrir les premières créations de Jean-Paul Gaultier. J'aime bien certaines pièces de Kenzo, j'adore Mugler. Voilà, tout le travail de Depardon, les documentaires, certaines époques de Jean Rouch aussi. Centrale du Brésil, Walter Salles, c'est un film qui, dans l'esthétique, l'époque du Brésil, l'ambiance, Orfeo Negro, ouais.
Merci Gilda, on va bientôt se quitter.
Oh waouh.
Je remercie la régie, je remercie Mélissa Fulpin. Gilda sera en concert à la Cigale pour le Mama Festival le 16 octobre, puis de nouveau à la Cigale le 28 mai 2026.
Merci.
Vous nous offrez quelques secondes de... Il nous reste une minute
une
pour
minute.
Les pensées diluviennes. Un petit extrait.
Ok. D'où viennent ces pensées diluviennes? Sai desse corpo que ele não te pertence. D'où viennent ces schémas que je reproduis sans réfléchir? Toutes ces pensées qui me traversent et qui sont pas à moi, que même les gens que j'aime ne me comprennent pas. Qu'à pleurer comme ça tout le temps, ça les dégoûtera. Que je ne mérite pas leur amour tellement je suis orgueilleuse, que c'est ça qui me rend monstrueuse. Attends, mais pourquoi je pourrais pas écouter ma boussole? Rien qu'à moi qui me parle tout bas, au bout là-bas. Celle qui dit que je suis drôle dans mon désespoir, que c'est ça que les gens veulent et ont besoin de voir, que tous ces frissons dans mon dos, c'est pas le froid, mais mes ancêtres qui se collent et veillent sur moi. Tomme cuidado, un ché, qui me disent prends garde aux charlatans, qui se disent chaman à tout bout de champ. Cuidado, un ché. Que je suis à la douceur lancinante avec ardeur, que je frôle un peu l'hospice à crier sur l'injustice, que perfection rime illusion avec erreur sublimation, on trouve la grâce, on trouve sa place et la beauté sauvera le monde et le monde sauvera la beauté, et ma colère c'est ma façon ratée d'aimer qui me dit tu t'es trompée, mais t'inquiète tout le monde se trompe. D'où viennent ces pensées diluviennes?
Vous écoutez Aligre FM 93.1.